Bien sûr, à Monet, vous avez quelques lignes dans votre éditorial, enfin de votre article, pour saluer la position du président Chirac. Vous dites quand même que les vêtements sont un peu trop grands pour lui. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est les convictions intimes de Jacques Chirac qui sont exprimées par le président Chirac, ou bien est-ce qu'il il suit l'opinion? Il y a des précédents à ça.
Oui, mais je pense que c'est une question que se pose un certain nombre d'analystes, pas de savoir dans quelle mesure la position de la France d'aujourd'hui résulte, disons, d'une observation, d'une étude de la situation comme ça internationale, et dans quelle mesure elle est le résultat finalement d'un contexte. Et je pense qu'il y a un peu une partie des deux. C'est vrai que Monsieur Chirac s'est un peu retrouvé presque par hasard. On ne savait pas qu'il avait cette analyse de la politique internationale. Moi, je le compare dans l'article au général de la Rovere, qui est un personnage d'un film de Rossellini très très connu, et dans lequel c'est un film qui se passe sous à l'époque de l'occupation en Italie, et finalement les Allemands arrêtent un escroc. Ils arrêtent un escroc brillant, sympathique d'ailleurs, interprété par Vittorio De Sica, et il lui propose un marché: soit tu vas en prison tout de suite, soit tu acceptes de te faire passer pour le général de la Rovere, que personne ne connaît, et qui est le chef de la résistance, et comme ça tu nous permets d'accéder à la résistance. Et ce personnage accepte d'être le général de la Rovere, mais il se prend peu à peu au jeu, et finit par résister vraiment, au point même finalement qu'il en devient un héros et qu'il meurt fusillé par les nazis. Donc on a l'impression que Jacques Chirac s'est un peu retrouvé par hasard, mais ce rôle...
Faut souhaiter que ça finisse pas de la même façon.
Non, mais la place était vide. C'est aussi la démonstration qu'a fait Chirac, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne au monde pour s'opposer aux États-Unis aujourd'hui. Ni la Chine, ni la Russie, personne. Et qu'il y avait une place à prendre... c'est celle de, finalement, l'opposition à cet empire. Et cette place, il l'a prise, d'ailleurs avec les Allemands, pour d'autres raisons. Et en fait, ça lui donne une popularité absolument fantastique, dont d'ailleurs le voyage récent en Algérie n'a été qu'un petit témoignage. Mais je crois que Jacques Chirac se promènerait aujourd'hui, je ne sais pas, en Inde, au Brésil, au Mexique, etc., au Nigeria, partout il serait accueilli comme... celui qui propose une autre politique. Et je crois finalement que ça nous conduit à nous interroger sur ceci: que cherchent la France et l'Allemagne par cette position qui est intenable? Parce que si tout à l'heure vous avez fait un petit test autour de nous trois en nous demandant: est-ce que vous pensez que cette guerre est inéluctable? La réponse unanime a été: oui, nous le pensons. Mais si nous sommes à 75% à peu près sûrs que cette guerre aura lieu, on peut imaginer que Schröder et Chirac aussi le savent, que cette guerre aura lieu. Et donc par conséquent, en quoi consiste leur position, puisqu'ils savent qu'ils vont difficilement pouvoir empêcher cette guerre? Eh bien, je crois que par cette position, ils sont en train de se placer pour l'après-guerre. Voyez-vous, l'après-guerre, c'est quoi? Comme disait Alain à l'instant, qu'est-ce qui se joue dans cette guerre? Ce qui se joue, essentiellement, c'est l'hégémonie américaine, bien entendu, à l'échelle internationale, quelle que soit la position des Nations Unies. Les États-Unis, cette administration, affirme finalement que leur conception du monde va devenir la loi du système international. C'est comme ça que ils l'envisagent. On entre dans une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, ils ne la conçoivent comme unilatérale. Eh bien, la position de la France et de l'Allemagne, par le simple fait qu'elle existe maintenant, c'est déjà de dire: dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, il y a déjà au moins deux pôles. Pas forcément deux pôles comme il y en avait quand il y avait l'Union soviétique, mais il y a maintenant déjà un second pôle qui vient d'apparaître, ce qui brise l'aspiration américaine à être sur un monde unipolaire. Quelle est une caractéristique que je trouve très intéressante de ce second pôle? C'est que, à la différence de ce qu'était l'Union soviétique, disons, ce second pôle n'est pas hostile. C'est pas un pôle de guerre contre les États-Unis. C'est malgré tout constitué par deux alliés des États-Unis, mais qui sont en train de dire, au-delà de l'administration américaine, sont en train de dire aux États-Unis, dans ce que ça suppose de complexité politique: les États-Unis n'ont pas les moyens de régler tous les problèmes du monde aujourd'hui, c'est même pas la peine qu'ils veuillent assumer ce rôle, ils vont à l'échec, il vaut mieux que finalement il y ait d'autres pôles, parce que ça peut être utile, parce que, par exemple, c'est pas en gagnant la guerre d'Irak qu'ils vont gagner la guerre contre le terrorisme international, ils ont besoin d'alliés pour la guerre contre le terrorisme. Ils ont besoin, il y a d'autres guerres à gagner, la guerre contre la pauvreté dans le monde, la guerre contre le... ils ont besoin d'alliés. Et là, la France et l'Allemagne, bien entendu, c'est intéressant. Mais d'autres pôles peuvent surgir. Lula, dans un texte qu'on a lu récemment, a proposé qu'un autre pôle apparaisse, constitué par le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Mexique, par exemple. Pôle non hostile non plus, mais proposant une autre vision du monde. Et c'est en ça, je crois, qu'il y a, dans cette démarche franco-allemande, quelque chose qui est profondément original, au-delà de l'anecdote que ce soit M. Chirac.